48 FM.
Leslie John au couloir en numéro 2. Allez Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du tapis apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe de Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Il t'a dit apéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme. Ouais, mon petit bonhomme. Bravo. Bravo.
On est tout seul.
C'est pour ça qu'ils vont perdre 2-1, 2-1 pour l'OM.
Ça, c'est beau, ça. Ouais. Excellent.
Bon, alors quand même, j'annonce un truc, hein, donc devant tout le monde, le monde entier, l'univers, l'univers entier. Si Marseille gagne contre Paris, vous êtes tous invités, je paye le champagne lundi pendant l'émission.
Voilà.
Ah, parfait. Très bien, ça.
Moi, j'amène les petits fours. Voilà.
Et toi, t'amènes les petits fours. Ah, bah, tiens, j'ai supporté Marseille pour la première fois de ma vie. Ouais. Excellent.
C'est pour ça, tu vois. Je connais les ficelles pour te faire aimer ce club de Marseille.
Du coup, on n'aura ni champagne, ni petits fours.
J'aurai du pâté, du jambon.
On a du jambon. On a du jambon en rab. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale qui aurait dû être spéciale dédiée à Feu Champagne et Feu Petit Four. Nous tenons ici à remercier Boubassar pour cette magnifique faute inutile sur Cavani à la 93e minute et 30 secondes qui nous oblige une nouvelle fois à manger du jambon, du pâté, accompagné de notre fidèle cubi rouge Patrick Biancon. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Patrick,
je suis abattu comme rarement. Ça faisait un moment que j'avais plus été dans un tel état.
Ouais, nous aussi.
Je dois le reconnaître.
Et ouais, nous aussi, Auré, mais pas pour la même raison. Nous, c'est qu'on attendait ces petits fours et ce champagne.
Ah, j'ai cru. C'est vrai que j'ai cru au champagne. Je me voyais déjà faire péter le bouchon là en direct devant les micros, mais non. Et pour nos auditeurs qui ne voient pas le studio, j'avoue que c'est la première fois, Patrick, que je te vois aussi abattu.
Ah, mais je dois dire que là. Ben c'est vrai que je suis encore sous le choc et d'ailleurs Ludo un peu parce qu'il prend Bounassar pour Booba donc c'est pas non ce n'est pas le rappeur donc malheureusement oui c'est peut-être que c'était le rappeur finalement qui est entré en jeu et qui a fait cette faute stupide qui va me hanter j'allais dire pendant des décennies mais non quand même pas mais enfin pendant un bon moment quand même.
Eh oui, mais grâce à notre ami Booba, Bouna, ce que tu veux, mais ça, en tout cas, Laurent Julien ne marque pas un nouveau point qui nous aurait mis mal. Salut Laurent.
Salut, bonjour tout le monde.
Et qui n'a pas eu à faire des petits fours à 23h hier
voilà,
soir.
Voilà, c'est vrai que 5 minutes avant la fin du match, j'ai reçu un SMS pour me rappeler que notre cher Ludo aime bien les petits fours avec de la saucisse feuilletée. Et je me suis mis à stresser, j'ai dit mince, c'est vrai, il faut que j'attaque à préparer les mini-fours, et puis non.
Et non.
Raté.
Voilà, c'est pour
quelle désillusion, encore une fois.
Et ouais, comment on peut supporter cette équipe, je me demande, Patrick.
Hein, c'est la passion, ça s'explique pas. C'est un peu irrationnel, c'est vrai. Et comme ma femme était en train de dormir, je n'ai pas pu crier, hurler toute ma rage, mais je me suis roulé par terre comme un gamin. Voilà, pour essayer de me calmer, mais ça a été dur. Hein.
Allez, 2-2, c'est bien quand même, match nul, un point ramené contre Paris. Et il n'y avait que la grande équipe de Montpellier qui a réussi à ramener un point cette saison, hein, rappelez-vous. Hein,
c'est vrai, 0-0.
Mes chers chroniqueurs. D'ailleurs, en parlant de ça, Julien n'est pas là, mais pour une toute autre raison. Alors, il m'a écrit une lettre. Je vais vous la lire. Chers amis, chers collègues, suite à la succession de défaites niçoises, je suis dans l'incapacité de tenir mon poste de chroniqueur aujourd'hui dans l'instant sport. Encore la défaite contre la formidable équipe du Montpellier Héros était amplement méritée. Cette formidable équipe qui a enchaîné une victoire à 3, des matchs nuls contre Monaco et Paris, puis une victoire contre Nice et ce week-end à l'extérieur contre Saint-Etienne. Mais là, Strasbourg, c'est trop. Je vais me reposer et revenir, j'espère, meilleur. Donc, on lui souhaite un bon rétablissement aussi à notre cher ami Julien Gall, qui n'est pas là aujourd'hui.
On lui fait un clin d'œil.
Et on lui fait un clin d'œil. Allez, voilà messieurs, on va parler du sport lausérien. On va commencer avec le volleyball, vu que nous avions un envoyé spécial à Montpellier pour suivre le match en élite entre le CNVB et le MVL, qui a vu une victoire de Mende 3-7-1. 25-21 perdu dans le premier set, suivi de donc 3-7 gagné. 25-14, 25-19, 25-18. Auré, tu étais notre envoyé spécial sur ce match. Alors, tes impressions un peu?
Alors, ben, mes premières impressions, tout d'abord, j'ai assisté à un très beau match de volley. Vraiment, c'était du très très bon niveau, que ce soit de la part des jeunes du CNVB Montpellier ou de la part de l'équipe de Mende. Vraiment, un match très agréable à regarder. Alors ensuite, sur vraiment le déroulé du match, effectivement, le CNVB a attaqué très très fort. Ils ont commencé par un 8-4, ils ont pris ces 4 points d'avance que ensuite Mende a traîné tout le match et n'a pas su rattraper. Donc vraiment un premier set de la part des petits jeunes où ils étaient pleins de fougue, ils tentaient des choses, ça marchait. Ils étaient là à ce moment-là vraiment dans le match, ils ont bien attaqué la partie. Et puis ensuite, sur les 3 sets suivants, ça s'est un petit peu déroulé de la même manière, ces 3 sets suivants, c'est-à-dire une domination vraiment des joueurs de Mende. Ils ont mis le premier set à prendre la mesure un petit peu de cette équipe jeune de Montpellier. Et puis après, une fois qu'ils ont réussi à trouver la faille et à prendre la mesure de l'équipe, ils ont été tout simplement monstrueux, les joueurs mendois. Notamment au bloc, encore une fois. Et oui. Un bloc impressionnant, que ce soit Moussa Gueye ou Loïc Alphonse, les deux là quand ils montent, j'avoue qu'au niveau de la détente sèche, ça m'a assez impressionné. Ouais.
Et Minoua?
Non.
Ninao
aussi.
Et tu parles en verlan, c'est bon ça.
Ninao aussi qui nous a mis quelques points venus d'ailleurs. Alors en plus, il y avait pas de tribune là-bas au gymnase, donc on était vraiment assis sur le bord du terrain. C'était au Krebs à Montpellier.
Ah d'accord.
Dans l'enceinte du Krebs.
Là où les jeunes s'entraînent.
Ok.
Voilà, exactement. Jours. Et donc on était vraiment assis au bord et effectivement Ninao, il est un peu plus massif que les autres. Les autres sont souvent grands et élancés assez fins.
Il saute au moins haut, ouais, c'est vrai.
Ouais, il saute au moins haut, il est un peu plus massif. Par contre, quand il tourne le bras et qu'il envoie une praline, eh bien ça part à 10 000. C'est impressionnant.
Il y avait du public un peu ou pas? Non.
Beaucoup de mendois. Beaucoup de mendois, pas trop de public, mais beaucoup de supporters mendois qui étaient là, qui avaient fait le déplacement. La salle était acquise à la cause des joueurs mendois.
Très bien, ça. Patrick, tu veux dire un mot?
Oui, c'est ce que j'allais compléter, ce qu'Aurélien vient de dire, en particulier sur le blog. J'ai discuté ce matin avec Jean-Marie Velay, qui était au match, et donc qui m'a filé quelques stats, en particulier sur Moussa Gueye, qui a marqué une quinzaine de points, mais surtout 9 blocs. 9 blocs en 4-7 pour le même joueur, c'est totalement hallucinant. On se souvient des stats aussi excellentes de Ninao au contre, alors je crois que c'est contre Arne. Donc là vraiment on sent qu'il y a un bloc impressionnant cette saison. Et alors c'était un peu le point faible, hein. On mettait pas trop de contre la saison dernière, et puis là on sent que ça monte en puissance complètement dans le secteur du jeu, un secteur hyper important, parce que même si on contre pas toutes les fois, mais il y a des ballons qui sont freinés, et donc après c'est plus facile pour défendre, et sur la relance tu mets le point, et c'est vrai que ça met un coup derrière la tête aux adversaires. Et voilà, et Jean-Marie me disait aussi match super, tout en progression aussi de Chaillou, un poste au poste de libéraux qui continue à progresser de semaine en semaine, et qui devient vraiment un libéraux de grande efficacité aussi bien en défense que dans les réceptions.
Et du coup, par rapport à la composition, la semaine dernière, il manquait Carlos.
Oui, c'était toujours pareil.
Parce que j'ai vu qu'il était sur les photos.
Il est venu effectivement. Ouais, il est resté sur le banc.
D'accord. Donc c'est encore Robin Utrel qui a joué.
C'est ça. Ouais.
Voilà. Il est pas encore rétabli. Hein, alors qu'au début, on pensait que c'était toute une petite entorse, et puis finalement, il faut dire que Constant aussi ne prend aucun risque pour la suite de la saison. Il a raison, mais bon, ça, il est pas encore rétabli.
On perd pas de points quand on prend un set ou
non.
On marque 3 points. Ouais.
Alors rappelons la règle, puisque le CNVB est automatiquement qualifié pour les playoffs, donc les points contre le CNVB sont conservés, d'où l'importance d'avoir gagné 3-1, puisqu'on ne perd pas de points contre le CNVB.
Je mettrai aussi, en parlant de joueurs, une petite mention spéciale à Paul Cooper qu'on a reçu dans l'émission spéciale capitaine. Qui nous a fait deux fois une série de services, 5 ou 6 services d'affilée, où on a marqué le point à chaque fois. Il a été vraiment impressionnant au service. On a à chaque fois marqué le point. Donc j'ose imaginer que la qualité de ses services était là pour faire marquer les points. Et donc voilà, petite mention spéciale à lui.
Par contre, on a du mal à rentrer dans les matchs. Hein. Ça fait plusieurs premiers sets qu'on perd. Il me semble, hein, à moins que je dise des bêtises.
Ouais, non. Contre Caudry, c'était le deuxième set.
Ah, c'était le deuxième.
C'était pas terminé.
Le premier
24
avait mal débuté.
Oui, voilà. Mais après, mais on a émis 6 ou 7 points d'écart contre Caudry au premier set.
Est-ce que c'est inquiétant qu'on perde un set à chaque fois?
C'est un peu le mal récurrent, je dirais, puisque la saison dernière, c'était souvent comme ça.
Si c'est qu'un set, ça va.
Voilà, c'était plus le second set, parfois le premier, mais bon, c'est vrai qu'on laisse assez souvent un set en route. Bon, on peut pas aussi toujours tout gagner 3-0, mais bon, oui, c'est vrai que je pense que Costan est conscient de ça et bon, il essaye bien sûr de maintenir la concentration des gars d'entrée et puis dans le second set.
Par contre, j'ai l'impression que Martigues, eux, ils ont pas perdu un set depuis le début de la saison.
Ouais, c'est vrai que Martigues est totalement impressionnant et donc maintenant on va arriver les gros chocs. Ça a commencé avec Montpellier, ça va suivre Fréjus et Martigues, pas dans la foulée parce qu'il y a Charenton au milieu, mais bon, on va vers d'immenses matchs. Et parmi les bonnes nouvelles, on a gagné que 3-2 contre Arnes, donc là on a perdu un point. Mais quand tu regardes le classement, bon, tu vas le dire tout à l'heure, mais Arnes, à mon avis, se qualifiera pas, donc c'est bon parce que ce résultat va s'effacer et donc on va récupérer ce point sur tapis vert.
Ouais, oui, très bien. Mais en parlant du classement, on va donner Auré les résultats et le classement, les deux. Vas-y.
Les résultats. Donc, Mann est allé gagner au CNVB 3-1, on l'a dit. Fréjus a gagné à domicile contre Charenton 3-0. Grenoble est allé gagner à Arnes 3-1. Et Martigues est allé gagner à Caudry 3-0.
Au classement,
ça nous donne donc Martigues premier avec 12 points. Deuxième, Fréjus et Mann à égalité avec 11 points. Quatrième, le CNVB avec 7 points. Et ensuite, cinquième, Grenoble, 3 points. Sixième, Charenton, 3 points. Septième, Arnes, 1 point. Et huitième, Caudry, 0 point.
Oui. J'ai juste une petite question pour Patrick. Mais Charenton, c'est où?
C'est la banlieue parisienne.
D'accord. Ok.
Voilà, c'est le. Je ne sais plus quel département c'est, mais en fait, c'est la banlieue parisienne.
Fou,
voilà.
Ça me glace. Quand tu me parles de Paris, là, c'est.
Et Arnes, voilà, tu l'expliques, qui devrait, oui. Enfin, pour l'instant, qui est pas en mesure de se qualifier avec un seul point. Ils sont avant-derniers. Martigues et Fréjus ont annoncé vouloir monter, hein.
Oui.
Donc, eux, par contre, il va falloir faire des gros résultats contre eux lors des confrontations directes.
Et d'ailleurs, le week-end prochain, samedi soir à 20h30, il y a un énorme match au pied de cour, puisque le MVL reçoit Fréjus.
Ah.
Donc là, énorme
grosse
match.
Affiche.
Ouais, grosse affiche. Et ces points-là qu'on t'aura en deuxième phase, puisque quand tu regardes le classement, à mon avis, Mande et Fréjus seront pour les playoffs. Donc tu conserveras les résultats de ces matchs-là. D'où, encore une fois, Christian Barthier appelle ça des matchs à 6 points. Et il avait dit ça contre le CNVB. Je pense qu'on peut reprendre cette expression contre Fréjus. C'est un match à 6 points.
Oui, et puis quand on voit déjà quand même que le cinquième, donc le premier non
qualifiable,
n'a que 3 points, c'est Grenoble. Donc on a quand même 8 points déjà d'avance, il y a déjà un écart
c'est ça.
Entre les 4 premiers et les 4 derniers.
Et en plus, n'oublions pas que si le cinquième, par exemple, double le CNVB, il ne sera pas qualifié, puisque le CNVB est qualifié d'office. Donc le cinquième, il faut qu'il revienne sur le troisième.
Sur le troisième.
Donc on se rend compte que c'est
juste la semaine prochaine.
Voilà. Donc quand je dis que Arnes est quasiment éliminé, bon ben Arnes, tu l'as dit, ils ont un point. Donc pour revenir sur le troisième, bon pour le moment c'est nous, puisqu'on est deuxième ex-aequo, c'est 11 points, il y a déjà 10 points d'écart.
Au bout de 4 journées, il y a déjà
c'est
les playoffs de dessiner finalement.
Voilà. C'est impossible que Arnes revienne à notre niveau. Donc finalement, ce point échappé à Arnes n'aura aucune conséquence au classement.
Allez,
en tout cas, Mande a bien préparé ce choc contre Fréjus parce que franchement, j'ai été étonné aussi de la qualité du CNVB. On les avait vus l'an dernier, c'était une équipe assez faible, ils s'étaient qualifiés automatiquement alors que sur le papier, normalement, ils ne devaient pas l'être.
Oui.
Mais là, franchement, vraiment de nets progrès et c'est vraiment une très belle équipe. Et Mande a su prendre la mesure et faire ce qu'il fallait pour l'emporter.
Ça serait bien qu'il gratte quelques points à Fréjus et
à Martigues. Ça a été déjà fait puisque Fréjus n'a gagné que 3-7-2 contre le CNVB. Donc Fréjus a déjà perdu un point. Oui, je crois que c'est à Fréjus, ouais. De mémoire, mais pas sûr. Je crois que c'est à Fréjus.
C'est c'est bien ça, oui. Il faut s'en souvenir de
voilà.
ça.
Voilà. Donc Fréjus a déjà perdu un point pour les playoffs.
Excellent.
Et si donc... tu veux faire le point par rapport à l'autre poule, on voit que Saint-Jean-d'Illac domine l'autre poule et Saint-Jean-d'Illac a coché la fameuse case de montée. Donc il va y avoir un gros match entre Martigues, Fréjus, Saint-Jean-d'Illac et Mende, puisque la cinquième équipe à avoir coché, c'est Beauvais. Et là, je crois que Beauvais, ils se sont trompés, puisque si tu regardes le classement de l'autre, ils ont un seul point en quatre matchs pour l'instant. Donc, a priori, ça va être compliqué pour eux de se qualifier pour les playoffs.
Saint-Jean-d'Illac qui était dans notre poule l'an dernier. C'est à côté de Bordeaux, non?
Oui, c'est à côté de Bordeaux.
Oui, c'est ça. On les avait au play-off.
Ah, c'est au play-off.
Ou en coupe. On les avait joués en coupe.
Oui, en coupe et en play-off, et en play-off également.
L'équipe qu'on avait gagnée, il me semble, à domicile, qu'on avait, on avait peut-être perdu
en
là-bas.
Coupe, en coupe, oui, mais en play-off, ça avait été plus compliqué.
Ouais, il me semble qu'on avait gagné à domicile et perdu à l'extérieur.
Je ne sais pas si on n'avait pas perdu à Mende.
Ah, aussi?
Ouais.
Aïe, 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 aïe. Bon, mais on va suivre ça. En tout cas, gros, gros match ce week-end. Oui. Premier vrai test, on peut dire ça. Hein,
à domicile, contre... oui. Premier vrai test. Ouais.
À domicile contre Fréjus.
Et nos amis là, qui sont montés du coup, cette année, là, comment ça se passe pour eux en deuxième division?
Écoute, je te dirais que j'ai pas bien. Si, alors je peux te dire que Avignon, puisque Avignon avait fini premier devant nous, donc ils ont perdu leur premier match à l'extérieur. Et puis là, donc là, ce week-end, ils ont fait leur premier match à domicile contre Lyon et ils ont gagné 3-7-1. Donc ils s'en sortent pas trop mal pour l'instant.
Pour un promu.
Et alors bon, pour ceux qui avaient vu le match, il y avait un joueur qui est originaire de Nouvelle-Calédonie, qui a un physique quasiment
de
rugbyman, avec des mollets assez hallucinants, puis une carrière impressionnante. Mais contre Lyon, il a marqué 25 points, il a fait un match stratosphérique, magistral, un match de toute beauté. Quoi. Pour ce joueur qui, on savait qu'il avait un gros potentiel et qui le fait voir maintenant en Ligue B.
Va-t-il rester la saison prochaine? On verra
ça,
bien.
Ça. C'est vrai que s'il continue à faire des matchs comme ça... il va bien sûr.
Il va se faire recruter par Mende, hein, c'est sûr.
Mende, c'est ça.
Peut-être bien.
Peut-être. Allez, l'équipe prénationale continue son prometteur début de saison avec une nouvelle victoire, cette fois-ci contre le Gazélec Béziers, 3-7-0. Du coup, Mende est deuxième au classement derrière 7, qui a gagné 3-7-2 contre Gignac. C'était un peu le match au sommet de cette journée. Gignac, qui a quand même un match de moins en...
Ben, nous, c'était un gros match aussi, puisque Béziers, aussi, ouais. Béziers était invaincu avant d'arriver à... sur ce match, donc bravo Mende.
Voilà, Mende qui est bien calé en seconde position et on verra ce que ça va donner.
Ouais, on connaît l'ambition du club, c'est de faire monter cette équipe avec Sofiane Cadour qui fait entraîneur-joueur, puis Jonathan Fadier quand même qui était dans l'effectif de la Une et donc qui maintenant sont affectés à cette équipe réserve. Donc voilà, il y a beaucoup d'ambition et on sait que mais c'est bien que, comme tu dis, parce que comme Gignac avait battu Mende, donc c'est bien qu'ils aient perdu contre 7, parce que si nous on bat 7, ça va nous permettre de passer les deux équipes.
Juste un petit point, Patrick, là, dans cette division, ça marche pareil, play-off
Non.
Ou c'est un championnat, le premier, les deux premiers, enfin je sais pas comment ça se passe.
Le premier sûr, après il faudrait me redemander, mais je pense qu'il n'y a que le premier qui monte.
Voilà, parce qu'avec la refonte, on ne sait pas trop.
C'est pour ça qu'il y a un peu d'incertitude dans ma réponse. Mais a priori, je pense qu'il n'y a que le premier qui monte.
Ok, parfait.
Christian nous écoute. Alors peut-être que.
Peut-être, on va voir.
Peut-être qu'il pourrait répondre à Patrick en direct.
Il peut nous envoyer des textos pour nous sortir de son mauvais pas.
Voilà.
En attendant, on va passer au handball avec l'équipe. Une très belle victoire du MGC à l'extérieur à Valence, 30-28. Alors après le départ du gardien roumain, là je me rappelle la semaine dernière où vous pleuriez tous les trois.
C'est vrai.
Mais attention à Gaëtan Roche qui est là. Eh bien il nous a sorti 19 arrêts, il a retrouvé sa place de titulaire. 19 arrêts, ce qui est quand même énorme pour un goal. Côté buteur, Beradji en marque 6, Bartholome 1, Chagnard 4, Coste 4, Léandri 2, Lefter 2, Létu 8 et... Pote 3, c'est Pau ou Pote, je sais jamais.
C'est Pote.
Le Pote, il en a marqué 3. Eh bien, ça nous fait au final 30-28. Il y avait 18-17 pour Valence à la mi-temps, 22-22 à un quart d'heure de la fin du match pour un très très bon résultat. Messieurs, voilà, on savait qu'il y avait du potentiel dans cette équipe, qu'il a démontré dans les matchs amicaux, dans les premiers matchs. On a eu quelques difficultés sur deux matchs. Là, c'est bien reparti. Hein. Patrick, gros résultat quand même, aller gagner à l'extérieur par deux buts d'écart à Valence.
Oui, Valence qui est une équipe en réserve, un centre de formation. Donc la Une joue à, Je sais pas si c'est une ou un deux. Enfin, bon, ça c'est sûr qu'il joue au niveau dessus puisque Manda affrontait la réserve. Et donc un effectif réduit, hein, puisque tu parlais des gardiens, mais Gaëtan Roche était le seul gardien à avoir fait le déplacement. Énorme performance, puisque au cœur de la première mi-temps, ben ça s'annonçait mal, puisque le MGC avait 5 buts de retard, il y avait 14-9. Donc ça partait mal. Il y a eu un premier rapproché juste avant la mi-temps, et puis après une deuxième mi-temps hyper tendue, où Valence a mené parfois d'un but, deux buts, et puis en fin de match, c'est vrai que le MGC, souvent dans le money time, on sentait une équipe qui avait des difficultés à gérer ces instants-là, et puis là au contraire, c'est Valence qui a craqué, en particulier l'entraîneur, d'après ce qu'on m'a dit, qui prend une demi-minute, donc justement, alors que Mande, il y avait ou égalité ou Mande menait d'un but.
Alors rappelle la règle, quand l'entraîneur prend deux minutes, t'es obligé de faire sortir un joueur. C'est toi qui le décide ou c'est l'équipe adverse?
Non, c'est
toi. Ça serait bon, toi. Ça tient le goal. Allez.
Non, c'est toi qui le décide. Et donc, ce qui fait que ton équipe en deux minutes joue un joueur de moins. Et donc, ça, il s'est un peu tiré une balle dans le pied, le coach, puisque ça a permis à Mande de prendre 2-3 buts d'écart et donc de vivre une fin de match plus tranquille, alors qu'à 4-5 minutes de la fin, c'était hyper tendu et personne ne pouvait se douter de quel côté ça allait basculer.
Quand on voit cet excellent résultat et le gâchis du dernier match à domicile contre l'avant-dernier Avignon, on a toujours quelques petits regrets quand on regarde le classement, puisque Mande est 5e avec 4 points et le deuxième, il a que 6 points, il a 2 points de plus. Voilà, ça fait un peu mal de.
Les Grands Avignon qui a que 2 points, du coup.
Ouais, qui a que 2 points.
En dernière position, ouais.
Oui. Ils ont gagné contre nous, oui, d'ailleurs, et ça fait râler, quoi. Bah, mais bon. On va pas y revenir, c'est fait. Mais voilà, il fera plus perdre 2 points comme ça, bêtement à domicile, et l'équipe se portera bien en haut du classement, quoi.
Non, mais c'est vrai que Laurent a entièrement raison, puisque sur 4 journées, Avignon a 3 défaites et le seul match qu'ils ont gagné c'est à Mende. Donc c'est vrai que ça fait râler, surtout quand tu fais une super performance avec cette victoire à l'extérieur contre Valence.
Et oui, en attendant, tu viens de le dire, Laurent Mende est 4e devant nous, il n'y a que Annecy qui a 6 points, Guillerand 6 points, Bourgoin 6 points.
Là au niveau des points c'est pas bon parce que...
Ah ça y est, s'est trompé.
Parce que Wand, quand tu gagnes tu marques 3 points, quand tu fais match nul tu marques 2 points. Et quand tu perds, tu marques 1 point. Donc Mende a gagné 2 matchs, ça fait 6. Et a perdu 2 matchs, donc ça fait 2. Donc Mende a 8 points.
Ah, on est premier.
Non, parce que les autres aussi. parce que les autres, c'est Cournon a tout gagné, je crois. Donc Cournon a 3 fois 4, 12.
Ok, bon, enfin bref, en tout cas, on fait un beau début de saison. 19 arrêts, messieurs, on peut quand même en parler. C'est énorme, c'est 19 arrêts.
C'est exceptionnel.
C'est exceptionnel. Ouais. Hein,
même sans être remplacé en étant là tout le match.
Ouais, ouais. C'est un match stratosphérique.
Ouais. Parce qu'en plus, quand on n'est pas remplacé au niveau psychologique, on
sait qu'il y a une tension.
Il y a une tension. Souvent, les goals sont remplacés, notamment sur les tirs au but. Ouais. Et là, c'est pas le cas. On est obligé de rester tout le match. Donc, un grand bravo à Gaëtan Roche pour.
Alors, si vous connaissez un peu Gaëtan, il est rarement tendu quand même. Oui. Gaëtan. Ah. Ouais. Ça, c'est une faculté qu'il a. Il est cool. Quoi.
D'accord. Ouais. C'est genre Auré sous Jack Daniel, quoi.
Ouais, voilà.
Ok, parfait.
Non, mais tu parlais du gardien roumain, mais il faut pas oublier l'autre recrue roumaine qui elle. Est bien resté et qui joue dans le jeu qui est le buteur.
Bon, c'est ça.
C'est vrai qu'il arrivait avec une réputation de marquer beaucoup de buts quand il jouait à Objat en Corrèze. Bon là on se rend compte que c'est quand même un joueur de très bon niveau et qui tient le jeu de l'équipe aussi bien dans les décalages que dans la marque quoi, dans la finition.
D'ailleurs Baradji avec 6 buts, c'est pas une recrue aussi?
Si, exactement, les deux recrues sont vraiment deux points positifs, d'où quand même le regret que le gardien roumain soit parti, parce que bon, on sait qu'en balle, c'est mieux d'avoir deux gardiens quand même,
ouais,
de même niveau.
Ils ont marqué 14 buts à eux deux, soit quasiment la moitié des buts mandois.
C'est ça.
Et ouais, très bien. La réserve garçon a perdu en terre catalane face à la réserve de Thuir, 27-25, de deux petits buts. Thuir qui recevait également les féminines, qui sont parties seulement à 7 joueuses, dont une s'est blessée, donc on espère d'ailleurs pas trop gravement. Vous l'aurez compris, un match compliqué pour nos féminines qui repartent avec une défaite 30-12 avant ce derby en Coupe de France qui va intervenir. Dans 2 semaines, au classement, Mende qui est 8e avec un seul petit point. Donc c'est compliqué pour cette équipe mandoise. À suivre, le handball Nord-Lozère avec l'équipe féminine, justement pré-nationale, qui gagne face à Cournon 22-16. À noter la blessure de la capitaine de cette équipe également. Voilà, des blessures un peu partout là en ce moment. Je ne sais pas si c'est la période, comment ça se passe, mais voilà. On rappelle lundi prochain émission spéciale hein, avec les handballeuses de Nord-Lozère et les handballeuses du MGC sur avant ce match de Coupe de France qui aura lieu le week-end d'après. Ce derby qui se jouera à Saint-Alban, il me semble, Laurent. C'est
oui,
ça
le dimanche à 16h.
Allez, donc un beau magazine la semaine prochaine, lundi prochain, dans nos studios. Quelle heure il est?
Pas de match, on peut rajouter, pas de match pour le MGC, l'équipe de N3 ce week-end de libre, pas de match.
D'accord, les filles non plus, je crois, et les filles du handball Nord-Lozère non plus, donc ça laisse 2 semaines pour un peu réparer toutes ces blessures quand c'est possible, bien entendu, et se préparer pour ce choc qu'on va évoquer longuement la semaine prochaine. Midi 56, allez, une petite pause et on va parler du basket et du foot après. On va savoir si le basket Cosmandois poursuit sa série impressionnante de victoires après 2 victoires consécutives, mais vous saurez après la pause musicale. On revient de suite.
After all the jets are in the boxes and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red, and the wind whispers merry. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping, somewhere a king has no wife. And the wind, it cries, Mary. The life that lived is dead, and the wind screams, Mary. Will the wind ever remember the names it has blown in the past? And with this crutch, its old age and its wisdom, it whispers, no, this will be the last. And the wind cries, Mary.
Allez, on est revenu avec le basket. Notre ami Auré, qui, on le rappelle, entraîne cette équipe, d'où les 2 premières victoires en 2 matchs. Que s'est-il passé? Alors, une 3e victoire à l'extérieur à Druelle?
Non, malheureusement, ça n'a pas duré.
Oh.
Et puis, une belle défaite, 77-58. Donc, 19 points dans la musette, il n'y a rien à dire.
Il y en a qui vont courir cette semaine.
Mais même pas, puisque on n'a pas d'entraînement cette semaine pour cause de vacances, on n'a pas accès au gymnase.
Aïe.
Donc, autant te dire que je suis content.
Ça ne pas pour courir. Ouais. Tu sais, à Mirandol,
sur le COS, à Mirandol, n'importe où, tu peux courir.
Donc, on a prochain match dans 15 jours, et pendant 15 jours, on va pas pouvoir s'entraîner. Donc,
physique.
Je crains un petit peu aussi le prochain match, pour tout vous dire.
Qu'est-ce qui s'est passé à Druel?
Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, pour vous faire un petit topo sur le contexte du match, donc on devait jouer contre l'équipe 2 de Druel. Et puis
les truelles, quoi.
Ouais, c'est ça.
Le vendredi midi, donc quelques heures avant le début du match, j'ai reçu un coup de fil du comité de l'Aveyron qui m'a signifié que l'équipe 1 de Druel, qui devait jouer juste avant nous son match, a reporté son match au week-end suivant. Et donc voilà, on a décalé le match à 21h pour jouer un peu plus tôt, pour qu'on puisse rentrer plus tôt. Et donc, en arrivant au match, effectivement, et dès le début du match, on s'est aperçu que plusieurs joueurs de l'équipe 1 étaient du coup venus renforcer cette équipe 2, ce qui changeait considérablement la donne.
Et oui, j'imagine.
Et oui.
Et surtout. Il fallait porter réclamation aussi, j'ai pas le droit.
Ah si, ils ont
pas le droit de jouer la semaine prochaine, par contre.
Ils ont le droit. Si aussi. Ah, oui, tout à fait. Ah, ouais.
Ils peuvent participer à deux journées de championnat.
Exactement.
C'est bizarre, votre sport, là.
Et même si l'équipe 1 de Druel avait joué juste avant nous, il y aurait pu avoir des joueurs qui fassent les deux matchs d'affilée. Ouais, tout à fait.
Ouais, c'est Zarmis.
Eh ben, du coup.
Et voilà, donc pour finir, en plus, Druel, c'est un club qui, l'an dernier, donc l'équipe 1 était au niveau régional et l'équipe 2 était au niveau pré-régional. Et donc, les deux équipes ont été déclassées de niveau pour cause de.
Il y avait
des problèmes financiers, non, des problèmes financiers. Et aussi quelques désagréments dans le gymnase, il me semble. Donc les deux équipes ont été déclassées d'une division. Et donc en plus l'équipe 1 de Druel, qui forcément leur objectif c'est la remontée puisqu'ils étaient à un niveau régional et a commencé son championnat de pré-région par 4 victoires en autant de matchs. Donc c'est vrai que l'apport de ces joueurs là, effectivement, on a vite senti qu'ils étaient quand même au dessus, qu'ils avaient un vrai niveau région. Notamment au niveau du shoot, une très bonne adresse à 3 points qui nous a pas mal pénalisé sur toute la rencontre, puisqu'il marque 9 3 points je crois dans toute la rencontre, et donc voilà. Mais ceci étant dit, on va pas s'en servir comme excuse, parce que ce que je retiens aussi c'est l'attitude des joueurs mandois qui vraiment n'ont pas tout donné sur le terrain, n'ont pas fait ce qu'il fallait. Dès le début du premier quart-temps, on se prend un 17-10 sur le premier quart-temps, et puis à partir de là, tout est parti un petit peu à volo. Chacun veut faire un petit peu son exploit personnel. On oublie les bases du basket, à savoir les bonnes passes, le jeu collectif, les shoots ouverts. Donc c'est vrai que à un moment donné ça peut pas marcher, donc défaite tout à fait logique.
Voilà, d'où les 10 kilomètres prévus sur le COS demain soir à 22h.
Tu viens de me donner une idée, figure-toi.
comme on a dit pour les footeux ou les handballeurs qui ont pris une fessée, ben le volet a droit le basket a droit aussi à sa fessée. Et maintenant, ben voilà, on espère que ça se reproduira plus.
Voilà, exactement.
On passe l'éponge.
Bon, après, ils ont marqué, combien tu as dit? 55 points amende? C'est
58,
bien quand même.
77-58.
58 points, c'est
bien. C'est un peu faible quand même. C'est vrai que quand on n'arrive pas trop à dépasser les 60 points, donc c'est vrai qu'au niveau de l'attaque, c'est encore un peu faible. Justement, on a encore du mal à trouver des automatismes en attaque. Donc ça va quand même venir au fil de la saison, parce que on a pas eu de championnat l'an dernier, on a intégré de nouveaux joueurs, donc c'est sûr que c'est quelque chose qui prend du temps de créer un collectif. Mais voilà, il faudra arriver à dépasser les 60 points pour gagner tranquillement dans ce championnat.
Ok.
On voit que c'est surtout le début du match qui a cloché, parce que c'est un petit papier là que je peux voir. Dans le troisième quart, tu fais que 18-15, et puis le dernier tu fais 26. Donc 3 points et 4 points d'écart dans le troisième et quatrième quart, c'est pas énorme, mais c'est surtout au début du match.
Ouais, l'entame de match, tout à fait.
À la mi-temps, c'est vrai que tu étais déjà plus de 10 points, c'est ça qui est un peu compliqué pour revenir, c'est plus difficile.
Exactement. Et puis après, comme je disais, l'écart a fait que les joueurs ont un petit peu baissé la tête et on a oublié les basiques. Hein.
Notre ami capitaine, Thomas capitaine, on sait combien il a marqué de points ou pas?
Il n'était pas là.
Ah, il n'était pas là.
Malheureusement, non.
Ah. C'est ça aussi, mais tu nous dis pas tout alors. En plus, il nous manquait des joueurs.
L'équipe était pas au complet, quoi.
Ouais.
Ici, quand même, il y a 9 joueurs qui sont partis, donc pour un déplacement, c'est pas mal, parce que nous aussi, on en parlait pour le rugby la semaine dernière, nous aussi, on on a quelques problèmes d'effectifs quand même. On n'a pas beaucoup de joueurs. On a un groupe de 12 joueurs. Donc c'est vrai que c'est pas beaucoup pour faire les déplacements. Là on était 9, donc si quand même il y avait un bon effectif, mais pour en revenir sur le comportement des joueurs, on était 9 joueurs, mais après le match, quand tu sais qu'il y en a 2 ou 3 qui ont fait la chouille la veille et qui ont dormi 3 heures dans la nuit, ouais. Ça aussi c'est pas très respectueux pour les autres collègues, quoi.
Oh là là, je me répète dans cette équipe cette semaine, hein, Patrick.
Il fallait le dire et c'est bien dit, tu as raison. Bon, moi, je faisais partie de ceux qui faisaient la fête, mais bon, quand j'avais un match, bon, voilà, je savais quand est-ce qu'il fallait s'arrêter.
En fait, tu veux dire que Luc a repris sa licence, c'est ça?
Non. Il était pas là. Et donc, le prochain match dans 15 jours, et malheureusement, donc, on n'a pas le gymnase parce qu'on est au lycée Chaptal et c'est les vacances, donc on n'a pas assez au gymnase. Et donc, encore un déplacement dans 15 jours du côté de Capdenac. Vous savez, Capdenac, c'est cette équipe contre qui on va jouer 3 fois. Puisque on joue
contre 1h30 de route,
2h30 de route.
2h30 de route. Oh là là.
On a l'équipe 3, l'équipe 4 et l'équipe 5 dans notre poule. Et là, donc, on va jouer contre l'équipe 5 dans 15 jours.
Ça, c'est n'importe quoi, parce que si je t'ai bien compris, ils peuvent mélanger les équipes. Donc, tu peux jouer 6 fois contre la même équipe, quoi.
Tu peux jouer contre 3 fois l'équipe 3.
Exactement. Voilà, ouais, tout à fait.
Eh ben, dis donc. C'est laquelle que vous aviez joué, la 3, la 4 ou la 5?
Le premier match de la saison, c'était contre la 3.
Ah, bah, ça va, vous avez gagné contre la meilleure, donc,
Ça va venir, ça.
Alors, on pourrait croire ça, effectivement, Laurent, tu, comme tu dis, ça veut rien dire. On pourrait croire, effectivement, que la 5 est moins forte que la 4 et la 3. Sauf.
Ah oui, mais
que,
ça peut être dans l'autre sens, ouais.
Sauf que la 5, à Capdenac, c'est des trentenaires qui ont décidé de se regrouper, qui jouent ensemble depuis une quinzaine d'années.
Ou alors il faut se méfier.
Ouais. Et donc, ils ont décidé, voilà, de créer leur propre équipe à eux, de se faire eux-mêmes les entraînements, juste pour rigoler, et de s'engager dans ce championnat, vraiment sans aucune pression, juste pour rigoler. Donc c'est vraiment quand même une équipe qui joue depuis plusieurs années ensemble. Et d'ailleurs, quand on voit le classement, ils sont pas mal classés. Ils sont même devant l'équipe 4. Hein. Donc
d'accord.
À se méfier.
Mais derrière l'équipe 3,
mais ils ont 2 matchs en moins. Donc,
d'accord. Ouais.
Voilà.
Ok, et ça dépend si c'est de leur soirée de la veille. Parce qu'on les connaît, hein, ces équipes de trentenaires qui se retrouvent comme ça pour monter leurs propres entraînements. S'il y a un anniversaire la veille, ça peut aider. Bon, enfin bref, on va suivre donc cette équipe du basket Cosmandois qui jouera pas ses vacances, qui rejouera après. Football avec Langogne qui continue son beau parcours en Coupe Laura Foot avec une victoire et une qualification au tir au but face à La Levade. Combien de tirs au but?
10-9.
10-9.
Victoire 10-9.
Après un partout.
Gros stress là.
Ouais, gros stress, un partout, temps additionnel. Et qui peut tomber contre l'ENL qui a gagné 5 buts à 4. Alors là, c'est pas des pénaux, hein, c'est pendant le match. Contre Châtaigneraie-Cantal, ça fait du bien cette équipe de l'ENL. Hein,
Ça fait du bien parce que je crois que Châtaigneraie joue au niveau au-dessus par rapport à l'ENL.
Une division au-dessus. Ouais.
Une division au-dessus. Et donc on sait que ben, l'ENL, c'est que des défaites pour le moment en championnat. Je crois 4 matchs, 4 défaites. Donc espérons que ça lance enfin la saison de l'ENL, et parce que bon, ça serait quand même dommage que l'ENL fasse 2 descentes en 2 ans, puisqu'on se souvient que l'année dernière ils étaient en R1, cette année ils sont en R2. Donc espérons que l'hémorragie se termine et que l'ENL puisse se maintenir en DH1.
Alors après avoir annoncé ce derby de handball féminin, on annonce le derby ENL Langogne.
Allez.
On l'annonce?
Ouais, allez, on l'annonce.
La gueule, hein.
Allez.
Ça serait sympa.
Bon, mais écoute, on va l'annoncer.
Que nos équipes lausériennes fassent un beau parcours en Coupe de la région, c'est bien.
Voilà, surtout Verne, parce que Coupe Gare Lozère, c'est pas trop ça. D'ailleurs, Le Buisson a perdu à la Grand Combe 3-0.
C'est surprenant, parce que la Grand Combe joue ce qui était avant la première division, donc une division en dessous du Buisson. Et la Grand Combe, c'est une équipe qu'on connaît bien, parce que Florac, Aumont... Ben voilà, c'était toute cette poule de l'année dernière, et on peut pas dire que la Grand Combe a marqué l'histoire des confrontations entre le Gard et la Lozère. Donc perdre 3-0 contre cette équipe, bon, c'est un peu surprenant. Je pense que c'est une contre-performance pour ce club du Buisson.
Cela dit, pour connaître un petit peu la Grand Combe, y avoir fait quelques matchs épiques, c'est très compliqué d'aller gagner à la Grand Combe quand on est un Lozérien. Très très compliqué, il y a un contexte très particulier.
Ok, bon, c'est chez nos amis Gardois, hein, c'est toujours suivant les endroits, c'est dans le Gard, hein, la Grande Combe.
Oui, c'est ça. Ouais,
c'est ça.
C'est à côté d'Alès, c'est la banlieue d'Alès.
Okay. Et hors antenne, je vous expliquerai comment on appelle les habitantes de la Grande Combe.
D'accord, alors, tu fais bien de préciser hors antenne.
Voilà, voilà. Au cas où il y a des enfants.
Voilà, bon, mais on le précisera hors antenne.
Notamment tes enfants, à toi peut-être. Ouais.
Alors, nos amies féminines de l'AFL, où rien ne va plus depuis leur passage dans cette émission, elles restaient avant de venir sur 2 victoires, et bien après être venues dans l'instant sport, c'est 3 défaites d'affilée, dont ce week-end face à Beaucaire, 2-0, avec au classement les filles qui
5e
sont...
place.
Voilà, 5e place avec 11 points. Enfin, si le classement est bon. Ce ouais. qui n'est pas gagné. Allez, notre départemental 3 qu'on aime bien dans cette émission, vous le savez. Les résultats auraient, ça a donné quoi ce week-end?
Alors, j'espère qu'ils sont bons, tes résultats.
Alors, on va voir.
Prends cela.
Merci. Alors, Badarou contre Margerie d'FC, ça fait 1 partout. Valdonnez, Le Buisson 2-0-0. Marvejol a gagné 3-0 contre Saint-Georges. L'AFL 3 est allé gagner 4-0 au Chastel. Football Sud-Lozère est allé gagner 4-0 également à Nord-Lozère. La Vaillante Aumônaise, très chère à ton cœur, Ludo, oui. a gagné 6-1 contre Montroda.
Je les aime bien.
Et enfin, Chirac a gagné 3-0 contre le Massegro.
Eh bien, ils étaient bons, mes résultats. Par contre, le classement, c'est une autre paire de manches. Allez, vas-y, Laurent, donne-nous le classement.
Alors, ben, on a toujours Marvejol qui fait un sans faute, 26 buts marqués et seulement 6 encaissés, donc 24 points. 3 points derrière le Foot Sud Lozère, donc c'est Florac avec 21 points. Donc je vous annonce tout de suite que ce dimanche à 15h à Florac, il y a Florac qui reçoit Marvejol, donc très gros match.
Ouais. C'est bon,
match au sommet, oui.
Match au sommet. S'ensuit l'équipe 2 du Buisson qui a 17 points, donc 4 points de retard sur le second, à égalité avec le Valdo. Et Badarou qui a 16 points, le AFL 3 16 points, le Massegro 15, Aumont 13, Chirac 12 points, 10e le Chastel 12 points, 11e le Saint-Georges avec 11 points, 12e Montroda avec 10 points, Nord-Lozère 2 qui est avant-dernier avec 9 points, et dernier le FC Margeride avec 8 points. Tout se tient finalement... Même le dernier, Margeride, est pas encore à la ramasse.
C'est 3 points la victoire, c'est ça, ou 4 points là?
Non, c'est 4 points.
4 points la victoire.
C'est 4 points, oui. Oui,
2 points le match nul.
Et 1 point la
défaite.
Ok.
Alors pourquoi est-ce que Badarou a un match en retard là, dans ton classement?
Non, Badarou n'a pas de match en retard.
Ben, il a dû y avoir un match perdu sur le tapis vert, alors je pense.
Ils ont 3 victoires, 1 nul, 2 défaites.
Ouais, parce que là, Aurélien a 19.
Et moi j'ai le classement officiel. Ouais. De...
Mais t'as 19 toi aussi?
J'ai pas regardé.
Oui,
ils n'ont pas 19.
Non, il a 16. Donc ouais, je pense que Badarou a dû perdre un match sur tapis vert. Parce que tu vois, il y a 3 points d'écart par rapport au classement doré. Et c'est vrai que Badarou en fait avait perdu qu'un match sur le terrain. Je sais plus contre qui là. Il y avait eu un match au sommet, peut-être contre Marvejol, non?
Oui, 2-0 contre Marvejol.
C'est ça,
crois,
voilà.
Il me semble.
Et donc là, je pense que Badarou a dû perdre un match sur tapis vert puisqu'ils ont 2 défaites maintenant.
D'accord.
Mais là, s'il y a 16 points sur la FED, c'est que le classement est bon. Mais pour expliquer, pour ceux qui suivent, on dit que Badarou est à la lutte avec les premiers. Donc là, s'ils sont un peu décrochés, c'est parce que je pense qu'il y a eu une sanction sur tapis vert.
D'accord, ben on suivra ça. Ouais, c'est étrange. J'en ai pas entendu parler.
Ouais. Non plus.
Ouais. On va voir ça en attendant. Mais voilà, on se disait, est-ce que ça va pas se jouer entre Sud-Lozère et Marvejol? Ben, il semblerait que pour l'instant, oui. Pour l'instant, parce que ça peut vite changer. Hein, mais d'où l'importance de ce match ce week-end-là. Sud-Lozère, toi qui connais tout, Patrick, tu peux nous parler un peu de cette équipe, de ce club du moins de Sud-Lozère?
Oui, c'est un club, qui a fusionné avec le Pont de Montvert. Et donc le Pont de Montvert, avant, il n'y avait que des jeunes. Et donc les deux clubs ont fusionné.
L'ancien club c'était l'ASTT, ça s'appelait, voilà, l'association sportive de Tarn et Tarnon.
Voilà, donc là c'était une fusion avec Hispaniac à l'époque. Et donc bon, cette fusion a connu beaucoup de hauts et de bas, puisque à une certaine époque, après la fusion, Hispaniac avait quand même recréé une équipe. Mais bon, l'ASTT avait perduré. Et donc là, devant les difficultés à trouver des bénévoles, etc., ben, comme tous les clubs peuvent en connaître, bon, mais Ils ont rayé de la carte le club de la STT et donc ils sont repartis avec le pont de Montvert et donc ils ont créé ce club de football sud Lozère en récupérant les jeunes, toutes les équipes de jeunes du pont de Montvert. Et d'ailleurs, il y a une équipe de vétérans aussi au pont de Montvert, que Laurent, je pense que tu connais. Et surtout, le pont de Montvert, ils ont un stade magnifique qui est certes en hauteur par rapport au village. Donc l'hiver, c'est compliqué parce que il y a souvent de la neige, mais en tout cas, ils ont des installations magnifique, un stade magnifique, des vestiaires et donc voilà, je connais bien le président qui est Fred Fauché, qui s'occupe des arbitres au sein du district Lozère, et donc c'est lui le président du pont de Montvert. Et c'est vrai qu'avant il y avait une équipe senior, mais ils ont arrêté depuis des années parce que ils avaient plus l'effectif suffisant, mais ils avaient continué à avoir une école de foot et des équipes de jeunes, et donc là la fusion, ça fait que ça donne un club plus solide. Et donc ça fédère tout un bassin de vie là-bas vers les Cévennes.
Ok, intéressant. Alors il y a nos amis de Langogne qui nous ont écrit pour venir participer à l'émission. Donc on est super contents de les recevoir. On vous donnera la date prochainement. Ça serait bien qu'on ait si tu connais le président, des gens de ce club de foot, bien qu'ils soient loin, qu'il faudrait qu'ils viennent le lundi. C'est toujours compliqué d'avoir des invités qui habitent loin, mais au cas où il y a quelqu'un qui travaille sur Mende ou qui doit y venir.
Ouais, c'est après bon, il y a un super joueur qui est aussi secrétaire ou trésorier du club, c'est Mathieu Labeaume, hein, qui est le pilier de cette équipe, numéro 10 avec un pied gauche.
Stéphane Labeaume, pardon,
tu as entièrement raison. Et qui a un pied gauche magique, et qui est vraiment le moteur, le capitaine de cette équipe senior. Donc oui, c'est une terre de football. Et bon, ils étaient dans ce qu'on appelait la première division du district Gard-Lozère, qu'on en parlait tout à l'heure. Et donc ils ont fait le choix, comme tous les clubs lozériens, de quitter le Gard pour intégrer ce district Lozère et ce championnat de Détroit.
Okay. Alors, je sais pas s'ils ont fait le choix, mais
pourquoi ?
Parce que je crois pas qu'on leur ait laissé le choix.
Tu crois ? Je crois que tu peux, comme le Buisson a décidé de rester en PHEB, je crois que s'ils avaient voulu rester dans les poules du Gard,
ils auraient pu.
Ouais, je pense qu'ils auraient
pu. Ça sera l'occasion de leur demander.
Ouais, ça sera l'occasion de leur demander. Ouais.
Je pense qu'ils ont pas eu le choix. Mais...
Bon.
Ok, on va essayer de savoir ça et de les inviter dans cette émission. On a bien fait le tour de l'actualité lozérienne. Dommage de ne pas avoir assez parlé, messieurs, parce que du coup, il nous reste quand même 10 bonnes minutes pour évoquer l'actualité nationale et internationale. De quoi allons-nous pouvoir parler ? Que s'est-il passé ?
Qu'est-ce qu'il y avait comme gros match ce week-end ?
Il y avait les Templiers à Millau.
C'est vrai.
Et on peut revenir sur l'actualité des sportifs lozériens, puisqu'il y a pas mal de Lozériens et de Mendois en particulier qui sont allés courir les environ 70 km des Templiers, avec des performances réussies pour la plupart. Certains ont dû abandonner au 50e, mais c'est quand même beau. Et bravo à nos sportifs lozériens.
Ouais.
Et c'est un Alsacien qui a gagné.
D'accord.
Et sa première.
Et d'ailleurs, pour continuer sur l'actualité des trails et des raids, il y a aussi nos amis de Lozère Sport Nature qui avaient fait les championnats du monde aux USA. Il y en a deux qui sont partis faire la Diagonale des Fous
sur
l'île de la Réunion.
Course qu'a fait Ludovic Trabuchet,
yes.
Notre ancien confrère de Midi Lozère, qui est à Nîmes maintenant.
Et nos Lozériens ont fait quand même des bons temps, puisqu'il y en a un qui finit 100e ou 101e au scratch. Et le second, à peu près pareil, je ne me rappelle plus, je ne vais pas dire de bêtises, donc je ne les dirai pas, mais bien.
Donc on rappelle le principe de l'ultra trail, ce sont des courses extrêmement longues où on court non-stop pendant des heures et des heures. Et
Sur plusieurs jours,
et notamment cette Diagonale des Fous où il y a un dénivelé, mais incroyable.
C'est une des plus dures au monde.
Voilà, c'est ce qui me semble.
C'est une des trails les plus compliqués au monde, parce qu'en plus il y a la température, une humidité, donc c'est pas évident de gérer tout ça.
Alors je vous dis pas bravo messieurs, hein, parce qu'on avait 3 matchs à pronostiquer la semaine dernière, et on n'a rien trouvé.
C'est vrai.
Aucun point de marqué. Et pourtant, j'y ai cru, moi. Hein.
La faute à Bounassar.
Ouais.
Toi, sinon, j'avais trouvé.
Oui, c'est vrai.
Ouais. Moi, la faute à Di Maria. J'avais dit 5-0 contre Anderlecht. Et il nous vendange une occasion là, à 2 minutes de la fin, Di Maria, pour le 5e but. Donc, j'étais assez vert.
C'est vrai.
Di Maria qui est rentré hier, qui en a marre de sa situation de remplaçant.
Ah oui, tu le sentais, là, même quand il est rentré contre Marseille, tu sentais que...
Il a pas déjà, quand il a marqué Anderlecht, il a pas quand même sauté au plafond non plus.
Non. Bon, allez, on va parler de ce match hier, on est obligé.
Quel match?
C'est, oui, oui, ben, Montpellier, ah non, c'était vendredi, donc non, c'est pas celui-là. Non, Marseille-Paris, de partout, Luis Gustavo, 16e, égalisation de Neymar, 33e, Thauvin, 78e, Cavani, 93e, ça va pas vous faire plaisir, mais on va d'abord parler de Paris avant de parler de Marseille. Qu'est-ce qui se passe à Paris? Des matchs, même si les résultats sont là, des matchs moins bons dans le jeu, Patrick, hein? On l'a vu contre Anderlecht, même s'il gagne 4-0, c'est moins bon.
Ouais, on l'avait vu contre Dijon, Dijon aussi,
c'est moins bon. Là, contre Marseille, ils sont pas là. Qu'est-ce qui se passe?
Je sais pas. C'est compliqué d'analyser une équipe. Je pense qu'on attend beaucoup trop de Paris. On attend qu'ils gagnent tous les matchs 4-0, 5-0, ou comme ils ont fait contre Bordeaux, 6-2. Je pense que c'est quand même dans les autres championnats. Ben, tu vois la Juventus qui est quand même pas flambante cette année.
Le Real qui est pas
Le Real aussi qui a fait des contre-performances à partir du moment où Cristiano Ronaldo était plus là.
Chelsea aussi.
Voilà, Chelsea qui est dans le dur, le Bayern bon qui a déjà été obligé de changer d'entraîneur. Donc on se rend compte quand même que les gros clubs peuvent avoir des creux et c'est ce qui se passe pour Paris. Après bon, je suis un énorme supporter de Marseille mais il faut quand même reconnaître que toutes les fois qu'ils attaquent, ben tu fermes les yeux ou tu te mets à trembler parce que il peut se passer toujours quelque chose. Donc ils ont quand même une marge. Après sur certains matchs, voilà, il y avait l'ambiance du Vélodrome, il y avait une équipe de Marseille qui, c'est vrai, a fait ce qu'il fallait dans l'engagement. Neymar a pris énormément de coups, il faut le reconnaître aussi. Bon, voilà, c'était ponctuel. C'était un match comme ça. Marseille peut pas jouer tous les matchs comme ça. Bon, après sur Paris, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet, y compris en Ligue des Champions, parce que après, ils savent, si quand il faudra élever le niveau, ils sauront le faire. À mon avis, ils sauront le faire.
Laurent, tu voulais dire un mot?
Ouais, sur le PSG, ils ont une formidable équipe, des super joueurs. Bon, mais je pense que le problème du PSG, c'est le coach qui est venu à Paris l'année dernière avec des idées, ses idées à lui, mais qui n'a pas réussi à mettre en place. Il a peut-être pas l'effectif pour jouer de cette façon-là. Et du coup, il n'arrive pas. Laurent Blanc arrivait mieux à gérer finalement ce fond de jeu là, de petites passes, de progression, un peu le style Barcelone, quoi, on va dire. Que maintenant ils n'y arrivent plus. Et puis comme ils ont trois stars en attaque, ben ils filent le ballon au mec. Et puis l'équipe est coupée en deux, quoi. Les milieux de terrain n'apportent plus comme pouvait le faire un Matuidi qui était un lien entre l'attaque et le milieu. Maintenant, ça suffit plus, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est un adepte du 4-2-3-1, mais qui met pas cette tactique dans les matchs, parce qu'on revient au 4-3-3 finalement, Patrick.
Le problème de ce coach espagnol, c'est que même s'il a un parcours assez impressionnant, puisqu'il a fait trois finales de Ligue Europa d'affilée, bon, il en a gagné une. Et d'ailleurs, Rami faisait partie de cette équipe vainqueur de la Ligue Europa. Mais son problème, c'est que, à mon avis, c'est la légitimité. Il a pas de carrière de joueur. Bon, c'est pas rédhibitoire, mais quand même ça compte. Mais surtout, il fait pas partie des top entraîneurs. Et donc c'est compliqué pour lui de gérer des joueurs comme Neymar, comme Cavani, comme Di Maria, etc. Bon, Mourinho, c'est pas comme
qui
Mourinho.
Qui est déjà annoncé voilà,
qui est déjà annoncé à Paris. Ben c'est pas Mourinho, c'est pas Ancelotti, même si Ancelotti s'est fait virer du Real du Bayern de Munich. Ben c'est pas Guardiola, c'est pas un coach comme ça, quoi. Donc c'est vrai que Guardiola,
Giroud.
Bon, son gros problème, c'est ça. Et d'ailleurs, ce match contre Marseille, tu vois qu'Mbappé, au bout d'une mi-temps, tu sais déjà qu'il est pas dans le coup.
Il n'y était pas, ouais.
Mais il a le droit de rater un match. Mais tu vois qu'il
ça
a
fait un mois qu'il rate tous ses matchs. Mais
il le change pas. Il le change à la fin.
Alors que t'as des Draxler, des Neymar. Voilà, je suis d'accord avec toi, voilà. Patrick.
Un vrai entraîneur comme Mourinho, je suis persuadé. Mourinho, il voit la première mi-temps d'Mbappé. Tu fais 1-1 à Paris, à Marseille, tu sens que tu es pas dans le match, bon, tu te fais bousculer. Il voit le match d'Mbappé, ben je peux te dire que Di Maria il rentre à la mi-temps si c'est Mourinho qui est sur le banc. Alors que là, Emery, bon, il attend, hein, et puis bon, ça avantage l'équipe adverse, quoi.
Et surtout que comparé aux autres années, en plus là, il a un banc quand même, il a un banc 3 étoiles quand même aussi.
C'est hallucinant. Donc, le banc de touche qu'il avait, quoi.
C'est vrai, ouais.
C'est vrai que lui, il avait pas Bounassar à faire entrer.
Oui. Mais bon, et Marseille, ils avaient Sanson quand même, hein, sur le banc. C'est pas mal, ça m'étonne.
Ouais, mais bon, Sanson, il bouffe la feuille parce que.
Ah, il loupe un tir.
C'est Bounassar d'abord qui bouffe la feuille, puisque Areola fait l'arrêt, mais le ballon revient sur Sanson. Et bon,
et moi, j'étais content qu'il rate parce que j'avais misé de 1.
Alors, oui.
Non, mais, non, à ce moment-là du match, tu étais encore content.
Non, mais Sanson, s'il est vraiment au top de sa forme, il tire pas. Il donne la balle à Ocampos qui est juste devant lui, et Ocampos, après, il met dans le but vide. Bon, mais il a voulu tirer parce que, voilà, parce que, ouais. 3-1, donner le 3-1, dans un classique, alors que tu, alors que tu es remplaçant, titulaire, ben, c'est vrai que, ben, voilà, il a chié dans la cour.
Oui, mais on peut dire ça comme ça, c'est vrai. Cette équipe de Marseille, alors, belle surprise, hein, sur ce match, hein. De l'engagement, c'est là où on voit que Garcia est quand même un bon entraîneur, hein, parce qu'on peut le décrier, on l'a décrié, enfin les gens l'ont décrié en ce début de saison, après les claques prises contre Rennes, mais que fait Rudy Garcia dans cette équipe ? Et ben au final, là, il leur a demandé de presser haut, d'être présent, et ben ça a marché, hein. Désolé, mais...
Oui, après, Garcia...
Après, il fait rentrer Sarr, mais bon, voilà. Il peut faire rentrer qui
Oui, mais bon...
À part faire rentrer McCourt,
Il a pas la baraka, Garcia, et d'ailleurs, c'est ça qui l'a bloqué dans tous les clubs précédents, qui, en particulier à la AS Rome, où il a fait deux saisons exceptionnelles, puisqu'il fait deux fois deuxième derrière la Juve, mais il a toujours manqué ces trucs, y compris en Ligue des Champions. Et je pense qu'il lui manque ce petit truc. Alors, est-ce que c'est la réussite? Est-ce que c'est le talent? Est-ce que c'est la science? Mais à mon avis, c'est facile de le dire. Mais quand tu vois Thauvin, le match que fait Thauvin, il fait un match extraordinaire. Il défend. Alors quand tu vois Mbappé défendre et quand tu vois Thauvin défendre, c'est vrai que c'est le jour et la nuit. Et j'ai pas compris pourquoi il fait sortir Thauvin. Parce que Thauvin, en plus, tu le sens pas fatigué. Tu sens qu'il en a encore. Et tu vois quand même que, en plus, en attaque, peut-être que si Thauvin a l'action de Bounassar, alors que tu as 2-1, peut-être que Thauvin, il le marque. Alors, on va pas refaire l'histoire. Mais c'est vrai que c'est un changement que je n'ai pas compris. Et, en plus, c'est catastrophique pour lui, puisque c'est Bounassar qui fait la faute. Non seulement il rate le but du 3-1, Bounassar, mais en plus, il fait la faute et tu fais 2-2. Donc voilà, il lui manque ce petit truc à Garcia. Et voilà, ça
va bloquer. Vieux port, là, avec un parpaing, là, il n'existe plus.
Oui, mais bon, après, il a peut-être voulu faire applaudir Thauvin.
C'est bien Luis Gustavo, exceptionnel.
Ouais, excellent ce joueur, j'adore.
Moi, j'avais une petite question pour Patrick, là, puisqu'on parlait des entraîneurs. Et ton chouchou Bielsa, qu'est-ce qui se passe avec Bielsa?
Alors, arrête, tu veux nous détruire, là, aujourd'hui. Alors,
tu sais que j'ai son numéro personnel, donc je viens de l'appeler. Oui. Et donc, je lui dis, tu restes encore en sommeil une semaine, puisque dimanche prochain, c'est Lille-Marseille.
Oui, c'est vrai.
Et tu te réveilles dans 15 jours. Voilà, donc il m'a dit il va faire tout mon possible. J'espère que Lille va pas se réveiller dimanche prochain, parce que voilà, lundi prochain je viens pas. Ça, ouais.
Ces pauvres Lillois là, ils sont dit super projet avec Bielsa, hein, alors qu'il y avait des Ranieri, des Zakarian disponibles, et voilà, on va chercher Bielsa.
Tu parlais de McCourt, mais McCourt sur le premier but,
il a cru qu'il avait gagné la Coupe du Monde.
Qu'il a fait un smack à Jacques-Henri Hérault, donc voilà, non mais c'est vrai que ça change. Par rapport au flegme tout russe de Margarita, c'est vrai que là, bon, on a senti que même du côté du président, il y avait quand même une passion bien réelle.
Ouais, oui ou pas, hein, peut-être qu'il feintait,
je sais pas.
Hein.
Je pense pas.
Bon, je sais pas. On verra ça dans les prochaines semaines. En tout cas, c'était un beau classico. Voilà, on avait peur que ça soit déséquilibré. C'est bien que ça se finisse.
C'était pas le match du siècle au niveau technique, mais dans l'intensité, dans le suspense et dans l'ambiance aussi, parce que le stade était en fusion. Voilà, par contre, ça a tenu toutes ses promesses, c'est clair.
Et ce Neymar, alors, il fait pas grand-chose, mais bon, il plante un but.
Ouais, mais j'aurais aimé bien qu'il joue à Marseille. Hein.
Ouais. Mais comme beaucoup de supporters marseillais.
Quand tu le vois partir, il est capable de débrouiller 3-4 joueurs. Bon, il a pris des coups énormément. Bon, heureusement que 2-3 fois Anguissa l'a loupé, parce que sinon ça faisait du petit bois.
Je l'aime bien Anguissa aussi.
Bon, Neymar, c'est un joueur exceptionnel et on a vraiment de la chance de l'avoir dans le championnat français.
Allez, on va finir sur ces belles paroles qui encensent le Paris Saint-Germain. Merci beaucoup, Patrick Biancone.
Neymar,
c'est ça. Ok, bah écoutez, on retrouve peut-être Julien suivant le résultat de Nice. Je ne sais pas contre qui il joue. Il n'y a que lui qui le sait, d'ailleurs.
Hein, c'est Paris. Paris-Nice.
Ah, c'est Paris.
Oh là là.
Bon, mais peut-être pas Julien, alors. on retrouvera peut-être dans 3 semaines.
Bon, il n'y a pas Neymar, hein, déjà.
Ah ben oui, c'est ça. Ah ben on a peut-être une chance, hein, parce qu'on voit que quand il n'y a pas Neymar, c'est plus facile.
Oui, ils ont marqué. Ils ont égalisé sans Neymar.
C'est ça. Et Montpellier a obtenu le match nul. Sans Neymar aussi. Ça aide. Allez, dans une semaine, on se retrouve. On va parler de ce match de Coupe de France entre le handball Nord-Lozère féminin et le MGC à Saint-Alban le week-end d'après. Grosse émission féminine handballesque la semaine prochaine. On se retrouve tous les amis et on parlera également de l'actualité sportive lozérienne, sport collectif et international et national avec cette Ligue 1. Ciao les gars, merci d'être venus.
À plus.
Salut.
Allez, à bientôt. Ciao.
Leslie John au couloir numéro 2, allez Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet, je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant, Alex, la France entière.
Parker inside, pretty play from Tony Parker.
Du tas de
la qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde.